Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Et j'aimerais reprier. Seigneur, je te remercie de ce que tu es le Dieu qui ne nous donne pas ce qu'on mérite et tu nous donnes ce qu'on ne mérite pas. Tu es ce Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, qui fait grâce, qui prend plaisir à la miséricorde. Et Seigneur, je te remercie de ce que tes yeux sont sur nous ce matin. Et Seigneur, je te prie que tu viennes démontrer ton caractère, ce Dieu qui fait grâce et ce Dieu qui fait miséricorde. Dans le nom de Jésus, amen. On m'a demandé de pouvoir parler des maisons de prière et des liens, du lien entre la louange et l'adoration. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que Dieu, il a mis tous ses œufs dans un seul panier. Alors qu'on pourrait dire, en tant que bon Suisse, c'est pas très sage. Surtout que ça n'a pas l'air d'avoir bien marché au tout début. C'est qu'il a choisi 12 disciples qu'il a formés pendant 3 ans et demi. Il y en a un qui l'a trahi. Et tous les autres l'ont laissé lorsque le moment où il avait le plus besoin d'eux est venu. Et on pourrait se dire, Jésus, tu n'avais pas un plan B. Non, il n'avait pas de plan B. Le moyen de transformation de toute l'humanité, c'était ces 12 jeunes hommes. Et 2000 ans plus tard, Dieu n'a toujours pas de plan B. 2000 ans plus tard, Dieu a toujours mis tous ses œufs dans le même panier. Et si je peux dire comme ça, ce matin, on est tous dans le même panier. Vous et moi, nous sommes l'agent de transformation qualifié, choisi par Dieu. Que vous soyez, vous sentiez qualifié ou pas qualifié, vous êtes la seule, si je peux dire comme ça, espérance de Dieu pour la transformation de l'humanité. C'est l'Église, c'est nous. Et le sujet des maisons de prière, je n'ai pas la prétention de pouvoir le couvrir dans une prédication. Et peut-être pour certains d'entre vous, maison de prière, c'est peut-être nouveau. Cette expression, elle vient du prophète Ésaïe. Et Jésus va reprendre cette prophétie qu'il a donnée. Ce que Ésaïe voit, c'est la première identité de l'Église, une Église qui est priante. C'est l'identité principale de laquelle tout découle. J'aimerais lire ce texte avec vous, qui se trouve dans Ésaïe 56, verset 7. « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Et Jésus, dans Matthieu 21, 13, va, notamment là, il va reprendre cela dans un contexte assez intense. Il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Et je crois que durant ces 2 dernières décennies, Dieu a arrêté de chuchoter que l'Église serait une maison de prière. Dieu a arrêté de chuchoter que l'Église serait priante. Mais telle une trompette, je crois qu'il a commencé à déclarer dans le monde entier en levant un mouvement que l'on appelle communément le mouvement des maisons de prière. Et une des raisons pour cela, c'est de nous provoquer à la jalousie, c'est de nous provoquer à la prière, c'est de dire que la prière communautaire, ça marche, et aussi pour que ces maisons de prière puissent être un lieu de ressources pour le corps de Christ, afin de l'aider à entrer dans son identité, son appel d'être priante. Mais par contre, le message que Dieu n'a pas voulu faire passer en levant ce mouvement de maisons de prière, c'est de dire que ces maisons de prière, ces lieux, ces centres de prière communautaires sont l'accomplissement de cette prophétie d'Ésaïe. Parce que Dieu a une seule église, Dieu a une seule épouse, et c'est une épouse qui sera priante dans son ensemble. Ce matin, je ne veux pas essayer de donner un message pastoral de l'application de cette prophétie. J'aimerais simplement essayer de présenter devant nous une vision, la vision de l'Église priante. En 1985, une étude a été faite aux États-Unis où ils ont essayé de recenser tous les ministères de prière 24 heures sur 24 qui se trouvaient à ce moment-là dans le monde et ils en ont trouvé 25, ce qui est déjà pas mal. 25 ans plus tard, en 2010, ils refont la même étude et à ce moment-là, ils en trouvent plus de 3000 aux États-Unis et plus de 10 000 dans le monde. Que s'est-il passé? En 25 ans, c'est comme si l'aspect du christianisme, l'expression du christianisme avait changé. Dieu a commencé à crier par son esprit ce que Ésaïe a vu lorsqu'il a guigné dans la génération qui allait voir le retour de Jésus, qu'il a vu que la première chose, la seule façon dont il pouvait décrire l'Église, c'était une Église priante. Dieu a dit, c'est le moment maintenant de pas simplement le murmurer, c'est le moment de le crier. Et ça, je crois que c'est une œuvre du Saint-Esprit. J'entendais une fois quelqu'un qui me disait, si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, trouve ce que Dieu est en train de faire dans ta génération et donne-y toi à fond. Alors s'il y en a certains d'entre nous qui ne savent pas ce que Dieu a pour leur vie, je peux vous dire que Dieu est en train de faire quelque chose dans le monde entier maintenant. C'est de nous appeler ensemble à la prière communautaire. Alors, si tu n'as pas d'idée, Dieu est en train de faire cela, c'est à toi de voir avec le Seigneur si c'est cela à laquelle il t'appelle. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le message. Si on regarde, surtout en Europe, on connaît ce que c'est l'Église priante. Ce n'est pas le message qui est nouveau, c'est la magnitude de ce que Dieu fait en une seule génération. Si je dis que ce n'est pas nouveau, c'est parce que notre Europe, notre vieille Europe, a été christianisée par le mouvement monastique. On peut penser aux moines irlandais. On a des traces ici, par exemple Saint-Gall, qui était un moine irlandais venu d'Irlande, évangéliser notre pays, notre nation, l'Europe. Et ces moines, ils étaient issus de Bangor, qui était un mouvement de prière qui a duré pendant 300 ans, 24 sur 24, qui rassemblait plus de 3000 moines qui chantaient, psalmodiaient à Dieu 24 sur 24. D'où je viens, Saint-Maurice, qui a eu la Laus Perennis, la prière perpétuelle, qui pendant 300 ans, ils ont psalmodié les psaumes. Et ce qui est intéressant, c'est que quand l'Église devient prière, elle devient missionnaire. Chaque fois, on ne peut pas rencontrer le cœur de Dieu et rester assis sur des chaises bien confortables dans une belle salle comme vous avez ici. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. C'est Paul qui va dire « L'amour me presse ». Pourquoi ? Parce qu'il a rencontré l'amour de Dieu pour les nations et l'amour le presse de pouvoir aller le partager. Cluny au Xe siècle, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Cluny, Thésée, peut-être Thésée c'est un peu plus connu, tout près de Mâcon. Ces moines aussi, au Xe siècle, se sont rassemblés sur l'ordre du comte de Mâcon, du duc d'Aquitaine, qui a dit « Je vais donner une partie de mon territoire afin que soit construite une abbaye. » Et il dit ceci, le 11 septembre 1910, il dit ceci, « Que soit établi en cet endroit un asile de prière où s'accompliront fidèlement les vœux et les oraisons, donc les prières, et que soit ainsi recherché et poursuivi avec une volonté profonde, une ardeur totale, le dialogue avec le ciel. » Je ne sais pas si il y a beaucoup d'historiens, je ne suis pas un historien, je connais peu l'histoire, mais j'ai étudié un tout petit peu cela. Et le temps, puis que la période que l'Europe passait avait, les défis qui étaient là sur l'Europe au Xe siècle étaient vraiment intenses, c'était la chute de l'Empire de Charlemagne. Quand on dit chute d'un empire, c'est qu'il n'y avait plus de loi, plus de police, plus d'ordre. Et c'est en même temps là où nos chers amis scandinaves ont décidé de venir nous rendre une petite visite. On appelle les barbares, les vikings, enfin, comme vous voulez. Et c'était un temps vraiment très difficile pour l'Europe. Et c'est dans ce temps-là que ces moines se sont réunis. Et Charlemagne, une chose qu'il avait faite, c'est qu'il avait décidé d'homogénéiser les règles des différents monastères. Et c'était la règle des bénédictins qui a gagné, mais en tout cas, c'est ça qu'ils ont commencé à établir. Et cette règle, on pourrait la résumer comme ça très rapidement, 50% de prière, 50% de travail. Et ces moines, lorsqu'ils sont réunis à Cluny, ils ont dit, à cause de la difficulté, à cause de ce temps de transition dans lequel on se trouve, notre continent se trouve aujourd'hui, on a besoin de prier plus. Et ils sont arrivés presque jusqu'à 24 heures sur 24 où ils ont laissé quelque chose qui était bon, qui était 50% de prière, 50% de travail, pour se donner pratiquement complètement à la prière à cause des temps dans lesquels ils vivaient. Je crois que On est d'accord que les temps dans lesquels on vit, j'aime bien discuter avec des personnes qui sont un peu plus âgées, beaucoup plus âgées que moi, et leur dire, est-ce que vous avez déjà vécu un temps tel qu'on vit maintenant dans votre génération? En général, la réponse, elle est non. Tous ces lieux de prière dont j'ai parlé, qui jalonnent notre histoire, cette réalité qui a commencé au roi David et qui culminera au retour de Jésus, tout cela sont des jalons prophétisant la réalité que l'Église sera priante, qu'elle sera connue pour sa prière communautaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'une communauté fait lorsqu'elle se rassemble, communique et enseigne ce qu'elle valorise. Lorsqu'Ésaïe a guigné dans la génération du retour de Jésus et qu'il a vu que cette Église serait priante, il a décrit, je crois, ce qu'il voyait. Et si on revient à Ésaïe 56, verset 7, la chose qu'il voyait, c'est que la prière était communautaire. C'est « je les rassemblais, je les amènerai sur ma montagne sainte ». C'était un rassemblement de gens qui aimaient Dieu. La deuxième chose, c'est que la prière était inclusive. Personne n'y était exclu, pas même ceux qui auraient dû l'être dans leur génération. On voit que Ésaïe va, dans ce verset-là, prophétiser déjà ce qui se passera après Corneille ou avec Corneille, où c'est aussi les gens des nations qui seront réunis sur la montagne sainte à Jérusalem. L'autre chose qui est peut-être pour nous le plus surprenant, on va dire comme cela, c'est que la prière communautaire sera la source de joie. C'est une source de satisfaction profonde, car ce sera une prière de rencontre. C'est une prière où, ensemble, on cherche à demeurer. Et produira la... Il dit, Dieu, dans cet endroit, produira la joie et produira la satisfaction. Je les réjouirai dans ce lieu de prière. Et le quatrième point, c'est que la prière est source d'exaucement. Il dit, dans cet endroit, leurs holocaustes seront agréés. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour reprendre les paroles de Jésus dans Jean 15, c'est tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Pourquoi? Parce qu'elle découle de cette prière, de cette attitude où on demeure en lui. Alors on pourrait se poser cette question lorsqu'on regarde l'Église en Occident, c'est lorsqu'on regarde à cette Église, qu'est-ce qu'on apprend sur ce qu'elle valorise? La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Je ne sais pas si ce verset vous dit quelque chose. J'ai trouvé sur votre site, au fait. J'ai trouvé sur votre site, dans la présentation de vos soirées interface. C'est un très beau verset. Un verset qui nous motive à nous approcher de la présence de Dieu. Mais c'est plus qu'un beau verset. Vous savez que ce verset a été chanté lors de la première soirée de louange qui ne s'est jamais passée sur la terre. Ça fait partie du premier chant. En fait, c'est une trilogie de psaumes qu'on retrouve dans 1 Chronique 16. Ce qu'on a vécu ce matin, on ne pourrait pas imaginer une église sans. On ne pourrait pas imaginer le christianisme sans musique. Et pourtant, il y a eu un temps dans l'histoire du peuple de Dieu où l'adoration et la louange étaient plutôt sanglantes. Elle n'était pas du tout musicale, c'était les sacrifices et les holocaustes. Et il y a un jour où tout cela a commencé à changer. Le contexte, c'est 1 Chronique 16, c'est David qui devient roi à Jérusalem. Il a conquis Jérusalem, il veut ramener la présence de Dieu à Jérusalem en ramenant l'Arche de l'Alliance. Et puis ça ne se passe pas très bien. Il se dit, cette présence, elle est trop dangereuse, je vais la laisser chez mon ami Obed-Edom. Puis après 3 mois, il voit qu'Obed-Edom, il est vraiment béni, ses champs poussent plus vite, tout est en train de se multiplier. Il se dit, cette présence, il me la faut, et il la ramène. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va changer, qu'il va opérer une révolution profonde dans l'expression de l'adoration à Dieu. J'aimerais qu'on lise ces quelques versets ensemble. Donc c'est 1 Chronique 16, verset 1. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance, on l'a mis au milieu de la tente que David avait dressée. Il plaça devant l'arche de l'Éternel ceux des Lévites dont le service était d'invoquer, de célébrer et de louer l'Éternel. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer l'Éternel. Il y a énormément de choses que je pourrais ressortir, qu'on pourrait ressortir ensemble de ces quelques versets. Et j'aimerais en mentionner trois. La première, c'est que le service de la présence de Dieu était au centre de ce que David a fait. Il plaça une tente et le but de ces tentes, c'était de pouvoir accueillir la présence de Dieu. David a refait toute la décoration de son salon, si on peut le dire comme cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il ne s'est pas dit « j'ai vraiment envie de cette arche de l'Alliance, j'ai vraiment envie de la présence de Dieu, où est-ce que dans mon salon ça ira le mieux ?» Alors est-ce que ça va être là? Est-ce que ça va être là? Est-ce que c'est dans un coin? Il se dit « ah, là dans un coin, en plus de tout le reste ». Non, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il a décidé de sortir tous les meubles de son salon. Une fois que tous les meubles étaient sortis, il a décidé d'amener la présence, de la mettre en plein milieu et de réorganiser toute la décoration autour de l'Arche de l'Alliance. La deuxième chose, une fois que l'Arche était là, elle trônait en plein au milieu de la tente, il a décidé de continuer dans la nouveauté. Alors je ne sais pas ce que les gens ont pensé à ce moment-là, parce que la dernière fois qu'il a voulu improviser, ça ne s'est pas très bien passé, il y a eu un mort. Il avait décidé de mettre l'arche sur un char tiré par des bœufs, et ce n'était pas super bien passé. Je ne sais pas ce que les gens ont pensé à ce moment-là, quand David a dit « on va continuer à improviser », mais cette fois, l'improvisation, elle était inspirée. Mettre l'arche aux yeux de tous, dans une tente, pas derrière le voile du Saint des Saints, était quelque chose qui était complètement nouveau. Et maintenant, il allait choisir des gens qui allaient se tenir devant la présence de Dieu pour jouer de la musique. Il plaça devant l'arche de l'Éternel ceux des Lévites dont le service était d'invoquer, de célébrer et de louer l'Éternel. À son début, les leaders de louanges, les groupes de louanges, comme on les appelle aujourd'hui, qui sont les pendants d'Azaph, Yedutun et des restes, du reste des mannes, ils ne jouaient pas comme ce matin devant des gens. Bien que je vous vois, vous êtes tous beaux et belles, c'est extraordinaire. Mais ce n'était pas cela qu'ils contemplaient. Ils étaient devant la présence de Dieu. Ils étaient là pour s'occuper de Dieu et pas des gens. Ils étaient préoccupés premièrement par la beauté de Dieu, la beauté de celui qu'ils contemplaient, et non par les besoins de ceux qu'ils auraient dû diriger. Et je me rends bien compte que ce sujet-là peut être sujet à controverse, surtout dans l'application pastorale pour aujourd'hui. Et pourtant, je crois que cette dimension-là, elle est vitale pour que l'Église devienne priante. De l'Éternel. 37, on apprend quelque chose de plus, c'est que David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères pour qu'ils soient continuellement de service devant l'Éternel. Tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Normalement, c'est là que la réunion de prière, que la soirée de louange s'arrête. Quand les gens partent, c'est la fin et tout s'arrête. Et là, les gens sont repartis parce qu'ils avaient bien mangé, ils avaient fait la fête. David avait offert un repas à tout le monde. David est retourné dans sa maison, les gens sont retournés dans leur maison. Et les musiciens, les chantres et les intercesseurs, ils sont restés là. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu, elle était toujours là. Ça ne dépendait pas de s'il y avait un public ou pas. Ça dépendait de est-ce que la présence de Dieu était là. Et ces musiciens, ces chantres, ces intercesseurs, ils sont restés là. Parce que pour moi, ils étaient prisonniers de la présence de Dieu. David a levé des prisonniers de sa présence afin qu'ils se tiennent jour et nuit devant lui, afin de lui rendre le seul culte qui est juste, dont il est digne, c'est la prière nuit et jour. Et troisièmement, dans ce verset, on voit que David a placé ses musiciens, ses chantres, ses intercesseurs pour louer, adorer et intercéder. Le mot « invoquer » qu'on retrouve dans ce verset-là. C'est le mot Zakar qu'on retrouve aussi dans Ésaïe 62, verset 6. Et plusieurs intercesseurs, voilà, beaucoup d'intercesseurs que je connais se voient dans ce verset qui est cité dans Ésaïe 62, 1, qui utilise aussi ce mot Zakar. Il dit ceci: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne doivent se taire ni jour ni nuit. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, pas de répit pour vous. Vous qui faites appel au souvenir de l'Éternel, c'est ce mot Zakar, c'est ce mot qui dit Dieu a des promesses pour Jérusalem, Dieu a des promesses pour l'humanité. Je vais lever des gens, des hommes et des femmes qui vont se tenir dans l'intercession pour me rappeler mes promesses envers les autres. C'est l'intercession. Et ce qu'on voit, c'est que lorsque David a fait cette révolution, les chantres, les musiciens et les intercesseurs, c'était quelque chose qui se passait ensemble, c'était quelque chose qui se passait simultanément. Et pourquoi je crois que c'est important pour que l'Église devienne priante? Si je dois vous demander d'imaginer une réunion de prière, à quoi est-ce que ça ressemble architecturellement, dans la façon dont les choses sont disposées? Je ne pense pas que vous allez imaginer une réunion de prière spécialement où il y a tout un groupe de louanges sur la scène et que la salle est remplie. Et la même chose dans une soirée de louanges, je vous demande d'imaginer à quoi ressemble une soirée de louanges, je ne pense pas que vous allez directement penser à un cercle de chaises et puis à quelques personnes qui sont là, principalement des femmes. Quand on parle de prière, on a un schéma très ancré. Quand on parle de soirée de louange, c'est aussi très ancré. Et on a séparé ces deux choses. Et alors que dans la pensée de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est la même réalité. Jean, plus tard, va voir que ce que David avait mis devant l'arche de l'alliance qu'il avait créée, cette révolution qu'il avait créée, c'est quelque chose qu'il avait créé parce qu'il l'avait vu dans le ciel, Apocalypse 5, verset 8. Il nous a dit ceci: quand il reçut le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes. Ces coupes qui sont la prière des saints. Les harpes représentent la musique et les coupes représentent la prière. Et pourquoi est-ce que c'est important que ça interagisse simultanément? Parce que Dieu a donné humainement, dans notre humanité, de la puissance à la musique. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'il y a de la musique, c'est que la musique rassemble. C'est que la musique va nous inviter à participer. On a tous été enseignés comme ça: quand quelqu'un parle, tais-toi et écoute. Mais lorsque quelqu'un chante, on commence à fredonner cette mélodie. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, comme cette invitation de vouloir participer. Je crois que cette séparation dans l'Église nous dessert, parce qu'on perd la complémentarité. On va me dire, mais ça c'était David, c'était il y a longtemps. Mais ce que David a fait, c'est 2 Chroniques 29, verset 25, qui nous dit qu'il ne l'a pas simplement fait parce qu'il était musicien, que pour lui, il voulait voir la vie en musique et qu'il voulait mettre de la musique partout parce que c'était son dada, c'était son hobby, c'était sa passion. C'est 2 Chroniques 29, 25 nous dit ceci: David fit placer les Lévites avec des cymbales et des luths. Pourquoi? Parce que c'était un ordre de l'Éternel. Et Acte 15 nous prophétise qu'à la fin des temps, Dieu relèvera la tente de David qui était tombée. La tente de David, ce n'est pas simplement ce qu'il a fait là avec la louange et la prière. C'est le règne millénariste de Christ. C'est le trône de David qui vient s'établir sur la terre. C'est la promesse qu'un jour, ce monde sera transformé par le règne de Jésus. Mais une chose qui était le fondement du trône de David, c'était cette louange et cette adoration ensemble, simultané et perpétuel. Et en conclusion, alors que nous avons vu cette promesse des maisons de prière, l'Église priante, la prière communautaire, la magnitude de son développement durant ces dernières années, et l'importance de l'adoration combinée avec l'intercession, j'aimerais replacer ces paroles de Ésaïe 56 qu'on vient de voir avec les paroles de Jésus dans Jean 15. Ça peut être quelque chose qui est un peu technique, ce que j'ai parlé ce matin, quelque chose qui est un plus de comment vivre la prière dans l'Église, mais c'est quelque chose qui est profondément personnel. Jésus, dans son discours, dans Jean 15, nous parle de la relation entre demeurer, obéir, demander et recevoir et porter du fruit qui demeure. Et souvent, dans notre société, on aimerait tellement produire beaucoup de choses, on saute directement au quatrième élément qui est porter du fruit qui demeure. Parce qu'on veut du fruit, on veut du concret. Et Dieu veut aussi du fruit, et Dieu veut aussi du concret. Jésus va dire que celui qui demeure en lui comme lui en nous, que sans cela, on ne peut rien faire. Ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que c'est le combat de tous les jours. Le combat de l'Église, ce n'est pas de porter du fruit, le combat, c'est de demeurer. Un autre terme pour demeurer, c'est notre premier combat, c'est de pouvoir l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle la prière communautaire est difficile, c'est que notre cœur humain, votre cœur, n'a pas été façonné pour être fasciné par les problèmes. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que nos réunions de prière communautaire ont telle faible affluence? C'est parce que la raison première pour laquelle on vient, c'est parce qu'on a des besoins et qu'on a besoin que Dieu vienne répondre à ces besoins, ce qui est juste. Mais ce n'est pas cela qui a la force de fasciner nos cœurs pour nous faire venir participer à ces réunions de prière. Par contre, ce qui fascine le cœur humain, c'est la beauté transcendante de notre Dieu. La prière communautaire, c'est premièrement une prière de rencontre. C'est premièrement une prière où on apprend ensemble à demeurer en lui. Et je crois qu'on peut créer dans l'Église un environnement qui favorise le premier commandement. On peut aussi créer dans l'Église un environnement qui va être toxique par rapport au premier commandement. On peut créer un environnement qui va faciliter, nous encourager à ensemble chercher à aimer Dieu. Et ensuite, Jésus nous promet que de cet endroit de l'intimité, de cet endroit où on demeure, de cet endroit où on garde sa parole, où on obéit, cela devient un lieu où nos prières sont exaucées. Tout ce que vous demandez en mon nom, vous le recevrez. Et le dernier point qu'il dit, c'est « Et je peux vous assurer que vous porteriez du fruit, et je peux vous assurer que votre fruit demeurera. » Et j'aimerais finir avec ce petit témoignage. Lorsque j'étais à la maison de prière de Kansas City, on a passé un compagnon de prière qui s'appelle Benji Nolot, et on a passé des milliers d'heures à prier ensemble. Six nuits par semaine, pendant des années. Et il a simplement fait ça, chercher à demeurer, chercher à aimer, chercher à obéir et chercher à voir Dieu répondre à ses prières simplement par la demande, l'intercession. Et un jour, Dieu a commencé à déposer sur son cœur tout le défi et l'horreur de la traite des humains. Et je me rappelle, on était dans un briefing avant qu'on prenne notre temps de veille, et il a partagé ce sujet, et ce sujet l'a profondément touché, et on a pris ce sujet comme sujet d'intercession. Là, quand il partageait, il y avait des gens qui avaient reçu des rêves. On sentait vraiment que Dieu était en train de faire quelque chose par rapport à cela. Et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il a commencé une œuvre qui s'appelle Exodus Cry, qui est justement, ou de ce fardeau qui est né de la prière, alors que ce n'était pas du tout quelque chose qui était sur son cœur. Il s'est lancé avec tout ce qu'il avait pour voir la fin, l'abolition de la traite des humains. C'est un des exemples, je pourrais en donner d'autres, de choses qui se passent alors que c'est que lorsque l'Église est priante, lorsqu'on cherche à faire cela, ce qui est sur notre cœur, qu'on porte du fruit, se passe vraiment. Mais ce n'est pas la première chose qu'on a besoin de rechercher. J'aimerais finir en priant. Seigneur, je te remercie pour cette communauté. Seigneur, je te remercie parce que tes yeux sont sur eux. Seigneur, tu connais chacun personnellement. Et Seigneur, tu désires tellement la relation. Tu n'es pas mort pour seulement des ouvriers, Seigneur, tu es mort pour des amis. Et Seigneur, ton cœur désire tellement l'amitié avec nous. Tu nous as créés pour l'amitié, Seigneur, tu nous as créés pour partager ton cœur avec nous. Et Seigneur, tu as tellement de choses à nous partager. Et Seigneur, en même temps, tu vois que notre chair, elle est faible, notre esprit est bien disposé. Et Seigneur, tu sais quelle est la force de faire les choses ensemble. Seul on peut être faible, ensemble on est plus fort. Seigneur, je te prie que pour cette communauté, Seigneur, ce que tu as dans cette dimension de l'Église priante, Seigneur, tu puisses le fortifier, tu puisses le faire grandir. Seigneur, tu le fais dans le monde entier, tu veux le faire aussi ici, dans cette belle région de Cossonay. Seigneur, en même temps, je me permets, Seigneur, de prier pour cette Église qui est dans un temps de transition. Seigneur, que ce que tu as planifié, ce que tu as déjà tracé pour cette communauté, Seigneur, arrive. Seigneur, sois exaucé. Seigneur, trouve son accomplissement. Seigneur, je te prie, cœur, donne dans cette recherche de pasteur, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, un berger selon ton cœur. Seigneur, un berger, Seigneur, qui enseigne, qui prend soin, qui enseigne dans la connaissance de qui tu es. Seigneur, je te remercie parce que tes yeux sont sur cette communauté. Dans le nom de Jésus, amen. Merci.